Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que le phénomène climatique menace l'humanité avec un lourd fardeau porté par les pays en développement et côtiers en particulier. Inondations, sécheresses, pauvreté des sols, élévation du niveau de la mer sont à registrer au quotidien comme c'est le cas dans notre pays. Assiatou Baldé, ancienne ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts de Guinée, nous situe le cadre conventionnel et réglementaire adopté par l'État guinéen.
Il n'est un secret pour personne que de nos jours, les changements climatiques impacteront toute la zone de Guinée et que la plupart des activités socio-économiques seront durablement affectées. Conscient de ce fait, le gouvernement de notre pays a vite pris des initiatives en signant en 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques que l'Assemblée a ratifiée en 1993. Ainsi, en tant que partie à cette importante convention, après avoir élaboré en 2007 son plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique, PANA, sa politique nationale sur l'environnement en 2013, la Guinée est éligible au fonds des pays les moins avancés. L'heure n'est donc plus à l'attentisme. Afin que notre pays puisse bénéficier de ces précieuses ressources pour inverser l'allure de dégradation de notre environnement.
Les effets du réchauffement climatique sont presque similaires dans les pays en développement général. Nos voisins sénégalais, par exemple, en souffrent autant, comme le précise ici Antoine Faye, environnementaliste, expert en changement climatique.
Les vulnérabilités d'un pays sont différentes, d'une zone géographique à une autre. Même si on peut classer le Sénégal comme étant un pays sahélien, il est aussi un pays côtier. Les impacts les plus visibles du changement climatique actuel mondial, c'est surtout l'érosion côtière, la montée du niveau de la mer. Mais le problème, c'est que le changement climatique fait, il exacerbe d'autres problématiques qui ont été déjà là. La sécheresse, la désertification, le manque d'eau douce, la forte chaleur et puis la prévalence même des pluies. Parce qu'il ne pleut pas assez, la pluie n'est plus étendue sur une période assez longue.
Plus loin, la grande île Madagascar vit elle aussi au rythme du changement climatique, particulièrement avec la dégradation des sols et la corvée d'eau pour les femmes. Nicole Vonjaïvanara, experte JAR et développement. Pour pallier à cette situation, les dirigeants du monde ont adopté, l'on se rappelle en 2015, l'accord de Paris sous l'égide d'Emmanuel Macron, le président français, visiblement très engagé sur la question. Ainsi, des mesures d'atténuation et d'adaptation ont été initiées comme solution alternative au redoutable phénomène. Mais si l'initiative en soi est appréciée de beaucoup, à l'exception de ceux qu'on appelle des climato-sceptiques, qui n'y croient pas du tout, je veux parler du président brésilien et américain Donald Trump. À propos, il vous souviendra que la mobilisation des fonds devient de plus en plus difficile avec le retrait des États-Unis justement de l'accord de Paris sur le climat. Le pays de Donald Trump, qui payait plus que les autres en ce qui concerne l'alimentation du fonds sur le climat et qui pollue beaucoup plus avec la Chine et d'autres pays développés, a décidé de claquer la porte. Pour combler ce manque à gagner, les avis sont partagés. Martin Faye estime que l'absence des États-Unis se fera sentir, c'est indéniable, mais le monde doit avancer sans l'oncle Sam, précise-t-il.
Le problème, c'est que le gouvernement fédéral américain n'a jamais fait quoi que ce soit sur le climat. Et ça, ce n'est pas seulement Trump qui est un peu en derrière, mais les États-Unis ont une avance sur tout le monde en matière de société civile, en matière de réaction des États et des villes. Donc, que M. Trump se retire, moi je pense que c'est une aubaine pour nous, parce que cela dit
que le monde doit fonctionner sans les États-Unis. Ouais. Dans la même lancée, beaucoup estiment qu'il faut arrêter de compter sur les autres. Il faut se laver le ventre, quand on vous lave le dos, ne dit-on pas. Sadio Diallo, acteur de la société civile canadienne pour sa part, pense qu'il faut associer le secteur privé à la mobilisation de ces fonds.
Au niveau des États, on sent parfois qu'il y a un décrochage par rapport à la réalité et à la prise en compte du fait entrepreneurial, parce que les entreprises sont le troisième maillon de la chaîne face aux défis climatiques, mais aussi des organisations de la société civile. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement remarquable. Mais je pense que le problème fondamental n'est pas la mobilisation des financements, c'est la volonté politique. Des ressources financières, il y en a. suffisamment. C'est une question de volonté politique et de faire en sorte que justement le financement ne soit plus public, ce qu'il est actuellement, mais que le privé aussi contribue afin qu'il investisse dans la transition écologique.
Dans cette perspective, le Fonds vert climat créé pour la lutte contre le réchauffement climatique, il faut le dire, est difficile d'accès à cause des conditions et critères à remplir. Mais il faut les satisfaire tout de même, puisque certains pays y ont déjà accès, affirme Moussa Kondé, point focal partenariat de la montagne au ministère guinéen de l'environnement, des eaux et forêts.
Pour accéder au Fonds vert climat, il y a beaucoup de contraintes. C'est pourquoi les pays n'arrivent pas, parce que c'est un processus qui est spécial. Parce que il y a d'autres pays quand même qui accèdent. Pourquoi pas nous ? La CEDEAO a jugé nécessaire d'outiller les pays membres de la CEDEAO pour faire comme les pays asiatiques ou les pays de l'Afrique de l'Est.
L'Afrique doit compter sur ses propres efforts si elle veut prendre son destin en main. Pour ce qui concerne le défi du changement climatique et de tous les autres défis du moment, nous a confié une activiste tchadienne et panafricaniste convaincue.